Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Priscille Roquebert.
Bonjour.
C'est un deuxième entretien dans cette série et puis ce temps spécial puisque c'est le temps de l'Avent et que en cette fin de semaine nous célébrerons cette fête de Noël. Vous êtes auteur de ce livre intitulé « Du poison au pardon » paru aux éditions du Sacré-Cœur il y a quelques mois. Au fond, le temps de Noël, c'est le temps où les familles se rassemblent. C'est le temps de la joie, mais ça peut être aussi le temps des divisions, le temps aussi des douleurs aussi et des larmes. Larmes et joie qui vont se mélanger l'une et l'autre. Ces larmes, vous les avez eues quand vous étiez enfant. Ces larmes, vous les avez eues quand vous étiez une adolescente et une jeune femme. Aujourd'hui, au micro, j'accueille donc un auteur et j'accueille une femme mariée, épouse et mère, debout. Debout, dans la joie, dans la paix. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications aussi, parce qu'il sera question aussi de beaucoup de douleurs et d'enfer, hein, dans la vie que vous avez connue, enfant et adolescente. Mais avant de plonger dans, cette scène qui n'était pas une scène de théâtre, mais des scènes d'angoisse, des scènes de terreur, des scènes de violence. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le moment, ce déclic où vous avez pris votre plume et où durant 5 ans, vous avez finalement commencé à écrire un peu l'histoire de votre vie, du début de votre vie?
Alors du coup, ça remonte à un peu... Je ne vais pas trop en dire dès maintenant, mais ça remonte à un peu plus longtemps qu'il y a 5 ans. C'est qu'en fait, je me suis convertie, donc je vous dis pas comment, mais en 2004. Et à ce moment-là, je me suis dit, je sais que le Seigneur a un projet pour moi et je sais que mon histoire doit servir à quelque chose. Je savais que mon histoire devait porter du fruit. Sauf que je savais pas comment, ni quand. Et du coup, je me suis petit à petit rapprochée de groupes de prière dans lesquels j'ai été amenée à témoigner. Et en fait, en témoignant dans des écoles et dans des collèges, j'ai vu des jeunes, venir à la fin, pleurer dans mes bras. Et en fait, je me suis dit, mais c'est à eux que je dois parler. Même si je pense qu'aujourd'hui, mon livre touche beaucoup plus largement que les jeunes, mais il n'empêche que je me suis dit, voilà, je vais écrire pour que le plus grand nombre, entre guillemets, de jeunes puissent entendre ce message d'espérance, de pardon, de liberté, de choix de la vie, enfin en quelque sorte de combattre pour la vie, quoi. Enfin et du coup, après, bon, l'histoire fait que il y a eu encore plein de rebondissements dans ma vie, qu'en fait j'ai pas commencé à écrire tout de suite, que je me suis mariée, que j'ai eu des enfants et que là les projets se mettent un peu en stand-by. Et puis il y a du coup 5 ans. C'est ce jour-là où, justement, mon mari a fini par me dire « Écoute, Priscille, ça fait 8 ans que tu me parles de ton livre, donc maintenant, soit t'aboutis le projet, soit t'en trouves un autre. » Et donc, j'ai fait « Ok, donc je vais tout faire à partir de maintenant pour qu'il marche. » Et donc, oui, l'écriture a été plus ou moins douloureuse. En fait, il y avait toute une partie que j'avais déjà un peu commencé à écrire, donc qui a été plus facile. Et puis, des parties qui étaient plus récentes, qui ont été plus douloureuses parce que j'avais pas encore eu le temps de revenir dessus. Après, ça a été un vrai travail aussi. J'avais vraiment envie que la vérité soit dite, qu'il n'y ait pas d'invention de ma part. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec ma maman, avec mes sœurs, même avec certains frères et sœurs de mon père, parce que c'est de mon père dont il est question, pour essayer même de comprendre la vie de ma mère avant, la vie de mon père avant, et puis pour que chronologiquement, je me trompe pas, que les faits, je les place au bon endroit. Donc, ça a été un vrai travail journalistique ou d'investigation pour que ce soit la vérité, même si, évidemment, que chacun, entre guillemets, a sa vérité. C'est-à-dire que sur un fait que je vais raconter, ma sœur pourrait l'analyser autrement. Mais voilà, en tout cas, ça a été des soirées d'écriture, beaucoup, beaucoup de temps.
Des soirées de larmes, parfois, dans l'écriture.
Oui, parfois. Hein. Ouais, parfois, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, mais en même temps, avec le recul, avec le recul, aujourd'hui, je peux dire que ça a été compliqué, mais qu'en même temps, c'était libérateur et c'était nécessaire pour réussir à sortir ce qui devait être sorti. Parce que c'est pas évident d'aller aussi loin dans l'introspection. J'ai même dû, à un moment, changer tout mon livre. Et en fait, j'ai recommencé mon livre en mettant tout à la troisième personne, comme si cette histoire n'était pas la mienne. Parce que je me rendais compte que quand je disais « je » tout le temps, j'allais pas au fond des choses. Comme si j'avais pas le droit, en parlant de moi, de poser certains mots qui pouvaient être très violents. Alors que si je me détachais de mon histoire en imaginant que c'était arrivé à une petite fille, eh ben là, j'avais beaucoup moins peur d'aller, de sortir tel mot par rapport à tel mot, de l'écrire. Voilà. Et après, j'ai dû tout rebasculer en jeu sans changer les mots qui avaient été difficiles à poser au début.
Priscille Roquebert, c'est le nom qui apparaît, hein, de ouais. l'auteur. Et vous m'apprenez hors antenne que c'est votre nom de jeune fille, donc ouais. vous assumez pleinement et vous ne vous cachez pas. Et ce qu'on peut entendre quand on vous écoute, c'est ce souci de la vérité.
Voilà. Exactement.
Voilà. Et ça, c'est, je dirais, peut-être l'une de vos qualités, de vos grandes qualités, Priscille Roquebert.
Ben, c'est possible.
Est-ce que cette vérité rend libre?
Ah oui, non, mais je ne veux pas de secret.
Vous avez assumé.
Oui.
Comment a réagi? Est-ce qu'on peut vous demander les réactions aussi de vos proches, de votre maman, oui. des frères et sœurs, des frères et sœurs, de vos grands-parents aussi, de vos propres sœurs?
Eh ben, alors à la base, j'ai toujours écrit en me disant ce sera mon nom de femme mariée. Et puis au moment où un éditeur me dit oui, ben là on réfléchit à plusieurs paramètres auxquels on n'avait pas pensé avant. Notamment, ce qui était important pour mon mari, c'était que comme je parle de mon mari et que j'ai pas changé son prénom, ben en fait c'est mon histoire. Au final, c'est pas la sienne. Même si je parle un peu de notre rencontre et tout ça, les trois quarts du livre, c'est ce qui s'est passé. Je porte le nom Roquebert à ce moment-là. Et donc, quelque part, j'ai préféré, entre guillemets, mouiller ma famille d'origine que de mouiller mon mari et mes enfants. Même si mouiller peut paraître péjoratif, parce qu'au final, ce livre, en fait, il ne salit pas du tout le nom Roquebert. Au contraire, je trouve que c'est un bel hommage à cette famille-là. Il y a des maladies et des souffrances dans toutes les familles. Après, comment ça a pu être reçu? Bon, j'ai changé les prénoms de mes sœurs. Je leur ai proposé. Est-ce que vous voulez les garder? Est-ce que vous voulez les changer? Donc, elles ont toutes voulu les changer. Je fais exprès de pas citer le prénom de ma maman et de mon papa. Plus largement, les frères et sœurs de mon père, ben ça a pu être un peu plus compliqué, même pour mes grands-parents, de comprendre ça. Et je les comprends très bien, en fait. Je comprends que ça puisse être difficile pour eux, mais j'ai toujours essayé de parler avec eux en leur disant, mais en fait, l'histoire, elle est belle. Il y a rien qui a été mis sous le boisseau, il y a rien qui est caché.
Alors, on peut donner quelques indices maintenant à ceux et celles qui oui. vous découvrent depuis hier. Donc, ce papa est un papa alcoolique et oui. ce papa va être, je dirais, diagnostiqué bipolaire. Donc là, on approche aussi, et vous le direz au cours des entretiens de la semaine, donc des moments, je dirais, tragiques, des moments dramatiques de la vie d'une famille, d'enfants et puis d'adolescents. Rendre hommage, de quelle manière?
Oui, parce que il y a plein de belles choses qui se sont passées quand même, et ça n'enlève pas le mal qu'il m'a fait. Hein.
Donc dans l'horreur, il y a aussi le beau.
Oui, en fait, la haine m'avait anesthésiée. Enfin, c'est comme si voilà, j'avais plus aucun bon souvenir. Alors que le pardon a entraîné des souvenirs vraiment que j'avais occultés. De mon père qui se bat pour s'en sortir, de mon père qui va venir nous demander pardon, qui va pleurer pour me demander pardon, qui, en sortant de l'hôpital, va me dire... va être tout fier d'avoir réussi à faire des cocktails sans alcool à l'hôpital, qui va être tout fier d'avoir essayé de faire des bracelets avec des perles, alors qu'il n'était pas manuel du tout.
Avec ses grosses mains.
Avec ses grosses mains, qui disait tout le temps ça. Et voilà. Et en fait, j'ai compris que lui, non plus, n'avait pas été épargné. En fait. Alors que pendant des années, j'ai cru... Et oui, il m'a fait énormément de mal, je ne pourrais pas lui enlever ce qu'il m'a fait, mais pour moi, c'était le diable en personne. Mais finalement, quand il y a cette demande de pardon, je comprends qu'il a souffert atrocement aussi et qu'il a été victime de cet alcool. Enfin voilà, que c'était plus fort que lui aussi.
En fait, vous parlez dans votre ouvrage, et puis vous avez nommé à l'instant aussi cette haine qui habitait votre cœur, cette haine qui anesthésie aussi et votre cœur également. C'était une forme de protection et de déni. C'est trop mal. C'était trop douloureux pour vous.
Bah oui, entre la haine et l'amour, il y a qu'un pas. C'est mon papa. J'ai pas de frère. J'ai 4 sœurs. Donc j'ai la seule représentation que j'ai masculine, c'est lui. Et lui, il me fait que du mal. Et lui, il me montre pas qu'il m'aime.
Et lui, au fond, c'est un monstre pour
vous. Bah oui, exactement. J'étais obligée de m'anesthésier pour vivre, en fait. Et j'étais obligée de haïr pour vivre.
Au fond, pour haïr, c'était un moyen de survie pour vous.
Oui, j'avais besoin de ça pour vivre, en fait. Pour survivre ou pour vivre. J'avais besoin de cette haine, de m'accrocher dessus, de grandir avec. Je pensais que si je la lâchais, j'allais mourir. Donc, pendant des années, ça a été ma meilleure compagne, ma meilleure amie. Et nuit et jour, c'était comment je peux le faire mourir. C'est allé très loin dans ma tête.
Vous vous rappelez très de ces moments ou dans votre tête?
Ah ben oui. Oui, tout le temps, dans le bus pour aller à l'école, tout le temps.
Ça devenait obsessionnel.
Ah oui. Jusqu'à me dire que, en fait, jusqu'à du coup penser à comment le faire mourir, le pousser dans les escaliers, mettre des médicaments dans ses verres de vin, et jusqu'à me dire que même si c'est moi qui le tuais, bah finalement, je j'irai pas en prison parce que ça serait ça aurait été pour nous sauver, nous.
Le tuer peut-être pour venir en protéger une maman et puis des sœurs.
Oui, pour qu'on soit toutes libres parce qu'on était prisonnières.
Alors, cette prison, vous l'avez vécue, on va commencer petit à petit à faire ce chemin. C'est le temps de Noël, moment de rassemblement, mais on sait ô combien, Priscille Roquebert, que de nombreuses familles aussi sont victimes de violences et puis de drames, mais que les histoires peuvent aussi bien se terminer. Et cette histoire, et votre histoire, se termine aussi avec cette belle couleur du pardon. Voilà. Mais je vous donne rendez-vous demain, à cette même place, à la même heure. On reste à Lourdes, près de Marie. À demain.
À demain.
Thank you.